pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Le 31 mai 2016, vers 17h30, à la sortie du collège Auguste Renoir dans le 13e arrondissement de Marseille, un élève de 4e était blessé par balle. Les tirs venaient d'un autre élève du collège. Avant cela, au début de l'année, et aussi après d'ailleurs, d'autres faits de violence ont eu lieu dans ce collège ou alentour, et aussi aux abords des autres établissements de Marseille, comme on le racontait hier dans Les Pieds sur Terre. Le quartier où cette histoire-là se passe s'appelle le quartier Malpassé et il porte bien son nom. Le collège y est coincé au milieu de plusieurs cités, notamment la cité des Lauriers et celle des Oliviers, mais aussi les Cèdres et les Cyprès. Deux clans s'y livrent une guerre de territoire sans merci pour le contrôle des réseaux de drogue. Une lutte d'une violence inouïe qui déborde à la sortie de l'école et dont les collégiens sont les victimes et parfois aussi les acteurs. D'après Éric Arella, le directeur interrégional de la police judiciaire de Marseille, cité par Vice, le fameux site, le conflit entre ces deux clans, que les enquêteurs appellent les Blacks et les Gitans, serait à l'origine d'une vingtaine de règlements de compte, au moins pour l'année 2016. Il faut dire que le trafic de drogue dans ce quartier représenterait un chiffre d'affaires de 35 à 40 000 euros par jour. C'est du moins ce que l'on peut évaluer à partir d'une comptabilité tenue par les trafiquants eux-mêmes et saisie lors d'un coup de filet anti-drogue à la Cité des Lauriers en mai 2015. Une guerre de gangs qui s'appuie sur des petits réseaux, des points de vente alimentés par des charbonneurs et surveillés par des guetteurs qui sont parfois de simples collégiens, des ados de 15-16 ans postés à l'entrée du collège ou pas loin. Aujourd'hui donc dans Les Pieds sur Terre, deux professeurs ou anciens professeurs au Collège Renoir racontent comment on peut enseigner ou pas dans ces conditions, ce qu'on peut y faire ou pas et comment ils ont réagi au mois de mai et ensuite. Le collège n'arrête plus les balles, c'est un reportage de Pascal Pascariello jusqu'à 14h sur France Culture.
En réalité on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, c'est comme ça que les choses arrivent.
Deux morts dans une fusillade cette nuit à Marseille, deux morts et un blessé. La fusillade s'est produite dans le tunnel du Prado près du Vieux-Port.
Le machin de la police, il vient, il regarde, je sais pas, il parle à nos mamans, je sais pas, qu'il se préoccupe un peu de nous.
Trois hommes tués par balle, trois autres blessés, règlement de compte meurtrier la nuit dernière dans les quartiers nord de Marseille.
Trois morts, dont deux adolescents de 15 ans et demi. La fusillade de la nuit dernière dans les quartiers nord de Marseille est probablement un règlement de compte.
Abattu par balle. Un mercredi matin, les enfants, ils étaient dehors devant l'immeuble en train de jouer au ballon. À Marseille, on tue pour rien.
Sur la liste des villes les plus inégalitaires de France, Marseille figure parmi les 10 premières. Triste palmarès. D'ailleurs, quand je déambule dans Marseille, le soleil, la mer et bon nombre de clichés ne suffisent plus, hélas, à masquer la fracture qui existe bel et bien entre l'aisance des beaux quartiers au sud et la pauvreté des cités au nord. Dans ces quartiers nord, à la mauvaise réputation liée aux différents trafics et aux règlements de compte, des parents, des enseignants se raccrochent néanmoins à l'espoir de s'en sortir qu'offre encore l'école. Mais maintenant, cette forteresse n'est plus préservée et l'écho des tirs vient parfois résonner dans les salles de classe. Cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Nelly, 35 ans. Elle a enseigné dans un collège du 13e arrondissement dans le nord de la ville.
Je m'appelle Nelly, je suis professeure de lettres modernes depuis 9 ans maintenant. J'ai enseigné pendant 8 ans dans les quartiers nord de Marseille. J'ai vécu énormément de moments forts, agréables et parfois même un petit peu traumatisants. Notamment un cette année, le 31 mai 2016, un mardi, lorsqu'à 18h aux abords du collège, des élèves de l'établissement dans lequel j'enseignais ont tiré sur un autre élève de ce collège. Et l'élève qui a reçu les tirs a été quand même blessé assez grièvement puisqu'il est resté hospitalisé quelques temps pour une perforation du bassin. Donc je n'ai pas assisté à l'événement, mais cela s'est déroulé à 18h, donc des parents ont été témoins ainsi que des enfants de l'école primaire, du collège. Et pour eux, ça a été assez traumatisant et perturbant. la loi de la cité s'introduisait dans le collège, donc dans le dernier bastion de la République peut-être dans ces quartiers-là. Le lendemain matin, le mercredi, quand je suis arrivée au collège pour mes 4 heures de cours, j'ai appris à 7h15 qu'un élève que j'ai en cours a été touché sans vraiment savoir à quel niveau et dans quel état vraiment il se trouve. Nous allons en cours et je dois trouver un moyen de faire face. Lorsqu'ils rentrent en cours, certains sont en pleurs, mais pour la plupart sont dans un mutisme profond. Et étrangement, je me raccroche à ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire j'essaie de faire court. Bien entendu, rapidement, je me rends compte que ce n'est pas du tout ce dont ont besoin les élèves à ce moment-là. Et donc, j'arrête le cours. Je reste un long moment perdu, puisque c'est la première fois que je suis confrontée à ce genre d'événement. Je laisse les élèves discuter entre eux, se rassurer éventuellement, parler à voix basse. Je leur distribue des papiers, des documents, des feuilles vierges sur lesquelles je leur demande d'écrire leur vision de leur quartier. Et quand les langues commencent à se délier, après ces 40 minutes assez lourdes, assez étouffantes et assez, je pense, douloureuses pour les enfants, ils me font comprendre par les mots qu'ils choisissent que ce qui ressort de leur quartier pour eux, c'est vraiment ce sentiment de ne pas être en sécurité, eux, leur famille, leurs amis, et d'être confrontés quotidiennement à la possibilité d'être la cible, eux, de tir. Et je sens clairement qu'il y a comme une frontière invisible entre les sentiments des élèves et ma vie, complètement déconnectée de leur vie à eux. Et peu à peu, ils commencent à me dire qu'ils se sentent oubliés, qu'ils se sentent à l'écart du monde, et à l'écart de la société. Pour moi, c'est vraiment leur ressenti. Et bien entendu, je suis obligée de démentir et de leur rappeler qu'ils font partie d'une république, qu'ils ne sont pas oubliés, que personne ne les oublie. Toujours avec ce rappel quand même de la République française, bien sûr. J'y crois un petit peu. J'y crois beaucoup même, j'ai envie de dire. J'y crois, j'ai mes idéaux. Maintenant, malgré moi, je ne peux m'empêcher de partager leurs sentiments. Parce que moi, chaque soir, il est vrai, je rentre chez moi, dans mon monde aseptisé. Je ne suis pas avec eux dans la cité le soir. Je ne suis pas avec eux dans la cité pendant les vacances. Je ne suis pas avec eux dans la cité après l'école. Donc je crois que la vérité sort vraiment de leur bouche à eux, puisqu'ils connaissent, ils côtoient quotidiennement cette cité qui est à leur fois leur fief et ce qui leur procure le plus d'angoisse, étrangement. Le lendemain des tirs, il n'y a pas eu de cellule d'écoute psychologique. C'est 2 jours après. Et il n'y avait pas non plus de policiers le mercredi. Donc quelque chose d'assez surprenant. Quand on sait qu'il y a quand même peut-être encore un danger. Donc voilà, toujours c'est ce sentiment-là. Que c'est un petit peu une école, un collège de seconde zone. Enfin, pas celui-là en particulier, mais... Voilà, un petit peu les oubliés de la société. Et c'est malheureux. Ce genre de règlement de compte, ne serait-ce que des tirs sur des écoles, des choses comme ça, on n'entend pas obligatoirement parler aux informations. Parce qu'effectivement, dans l'imaginaire collectif, c'est normal. Et notre hiérarchie nous a fait comprendre que nous exagérions peut-être et que nous agissions certainement sous l'effet de l'émotion et qu'il ne fallait pas dramatiser outre mesure. Or, nous étions tous sous le choc, les professeurs, les parents, les élèves, et il nous semblait qu'il était nécessaire d'agir et que c'était grave, que ce n'était pas rien. Et nous avons manifesté notre mécontentement pour dire que des choses devaient être faites, car si cela s'était produit dans un autre quartier, des mesures plus radicales auraient été prises. Une dizaine de jours après, j'étais en cours avec une classe de troisième et le principal adjoint est venu me dire que quelqu'un voulait me voir dans la cour de récréation. Il m'a dit qu'il prenait en charge ma classe, donc je suis allée dans la cour de récréation, mais j'étais un petit peu angoissée parce que je ne savais pas exactement qui voulait me voir. Et c'était l'élève en question, donc qui était sorti de l'hôpital parce qu'il voulait me parler. Donc nous avons échangé quelques mots. Il allait bien, il était assez léger sur ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire qu'il n'a pas parlé de ça. J'ai eu l'impression qu'il ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait. Et ça m'a un peu mis mal à l'aise, puisque c'est sa vie, à lui, qui a été mise en danger. J'avais l'impression qu'il ne réalisait pas vraiment. Et qu'il revenait un petit peu en conquérant, comme une sorte de jeu ou de gloire. C'est à nous de leur faire prendre conscience que ce n'est pas amusant. Ce n'est pas un jeu, que ça peut très mal se terminer et très vite se terminer. Que la vie terminée, mort, on ne vit plus. C'est un peu bizarre de dire ça, mais pour leur faire prendre conscience qu'il n'y a plus rien après pour eux. Il n'y aura pas la gloire de leur nom, la gloire éternelle de leur nom. J'ai perdu quelques illusions, mais ça m'a aussi apporté énormément sur les possibilités de l'humain à faire face à ce genre de choses et à la maturité de certains enfants qui parviennent à dépasser ce quotidien-là. Mais moi, j'ai eu un sentiment un petit peu d'avoir manqué quelque chose, puisque de nombreux élèves que j'ai pu avoir vont être confrontés malheureusement à ce genre de situation. Donc j'ai l'impression de planter des graines pour certains qui germent ou qui pourrissent, hein, et qui ne germent jamais. Et c'est un petit peu démoralisant parce que quand on connaît certains enfants, on a vraiment espoir. Et c'est vrai que c'est assez douloureux de constater finalement l'échec. Alors notre échec, mais aussi un échec plus général. Donc c'est vrai qu'au bout de 8 ans, ça fait aussi du bien de partir parce que c'est un petit peu démoralisant, un petit peu déprimant, ce sentiment-là d'essayer de faire et de ne pas y arriver.
France Culture, les pieds sur terre.
De nombreux enseignants partagent comme Nelly ce sentiment d'échec ou d'impuissance. Et force est de constater, hélas, que les professeurs sont désormais, comme les habitants de ces quartiers, peu soutenus par les institutions qui tentent de banaliser la violence. J'ai rencontré Laurent Nunez, préfet de police de Marseille. Lorsque je lui ai demandé son avis sur ces tirs aux abords du collège en mai dernier, il ne s'est pas attardé sur la gravité des faits. Il a surtout insisté sur la mobilisation des enseignants qu'il ne trouvait pas toujours bien appropriée. Quelle étrange réaction. Ne pas trop parler, ne pas trop faire de bruit, faire comme si c'était normal, voilà ce que l'on demande aux enseignants. Mais est-ce possible d'accepter cette situation? Ce matin, je dois rejoindre Nicolas, 35 ans, professeur dans les quartiers nord. Il n'a pas accepté justement cette loi du silence. En tout cas, il ne l'a pas supportée.
Ah ben moi je suis prof de français, j'ai 35 ans et j'ai enseigné 9 ans dans les quartiers nord de Marseille. C'était pas un choix parce que, bah, comme tous les jeunes enseignants, j'ai été muté tout de suite après avoir eu mon concours à Marseille, puis dans le collège Renoir, donc dans le 13e arrondissement de Marseille. C'est le début des quartiers nord, quartier mal passé, les cèdres, les oliviers, les jolis noms d'arbres pour des bâtiments dans la forêt de ciment, comme disait Ayam à l'époque. Donc il y a les cèdres, il y a les oliviers, il y a les lavandes, il y a le fameux quartier Corot, là où tout se passe en ce moment, qui est un peu le centre de toutes les guerres, les règlements de compte dont on entend parler aux infos régulièrement sur Marseille. Et tous les élèves donc, viennent de ces quartiers-là et traversent la rue pour aller au collège qui est vraiment au cœur de la cité. Et bah, c'est toujours un peu difficile quand on démarre dans ce genre de bahut, mais après on s'y fait très bien et j'ai passé de très belles années. Ce qui est vrai et pas toujours dit, hein, c'est que ça se passe très bien, quoi. C'est un établissement où il n'y avait pas beaucoup d'élèves, il y avait 350 élèves. Moi, je connaissais le prénom de tous les gamins. Et il y avait vraiment une bonne ambiance, quoi. Et le fait de rester longtemps, ça permet justement de tisser des liens avec tout le territoire, c'est-à-dire à la fois les élèves, mais surtout les parents, les centres sociaux, les associations. Et il y a une véritable vie de quartier, finalement, dans ces coins-là, qui ne sont, sont pas si déserts qu'on l'imagine. Seulement, il y a une violence qui a connu une escalade délirante ces 4-5 dernières années. Il y a eu de plus en plus de règlements de compte, de jeunes décédés. Et finalement, je me suis rendu compte, et je pense que bah, tous les habitants du quartier, les enfants aussi, se sont rendus compte que bah, cette carrière de trafiquant, cette carrière de gangster, elle était de plus en plus courte et qu'on mourait de plus en plus jeune. La seule différence entre les anciens gangsters et ceux d'aujourd'hui, c'est qu'on en meurt à 18 ans aujourd'hui, quoi. Ça arrivait qu'on ait des discussions là-dessus, même si c'était pas trop le propos, vu que ben, le but était quand même, en ce qui me concerne, de faire du français, de la littérature, donc ben, de faire des choses qui s'éloignaient de ça. Mais ça m'arrivait de tordre le cou autant que possible au mythe qui voulait que la prison, finalement, soit pas si difficile. Comme disaient les enfants, la prison c'est dur, mais la sortie c'est sûr. Et ça, c'est un peu la légende qui entoure la vie de trafiquant et qui fait du séjour en prison un fait de gloire, quoi. Un gamin peut s'en sortir s'il est dans une famille qui le sert, qui l'aime, qui l'entoure, qui l'enveloppe, qui l'empêche d'aller traîner dehors, qui le suit à l'école. Mais comme il n'y a aucune mixité, on reste dans ce climat-là, quoi, pour ses enfants. Moi, j'ai rencontré des familles, des mères courage, des gens mais admirables au niveau de leur abnégation, de leur volonté de faire réussir leurs enfants, parce qu'il y a cette envie de s'en sortir qui est très forte, parce qu'il y a de l'autre côté des leviers qui sont vraiment toxiques, quoi, et qui sont très puissants. Le fait qu'à part un centre social, à part un collège, on va dire, la République, finalement, est complètement absente. Quand il y a eu au collège des événements type un mercredi matin, je me souviens, à 10h30, on entend, alors qu'on était en classe, une rafale de Kalachnikov. Au même moment, tous les portables des élèves se mettent à sonner. Donc les morts étaient à 300 mètres du collège. Et les enfants sont sortis à midi, comme si de rien n'était. Il n'y avait pas de police en uniforme pour les accueillir à l'extérieur, pour encadrer la sortie des élèves. Donc, il s'agit, et puis après, ils sont allés voir autour du cordon qui entourait les cadavres, Mouche du Coche, comme ça. Ils sont allés regarder ça. Ça fait partie de leur quotidien. Donc, j'ai continué mon cours, pas comme si de rien n'était, mais après avoir discuté pendant 5 minutes avec les élèves, j'ai repris le cours. Je me souviens leur avoir dit que c'était terrible, qu'ils puissent vivre dans un quartier comme ça, ça me dépassait et que je les admirais aussi. Ça m'est souvent venu, ça, de leur dire que je les admirais de vivre dans un quartier comme ça, mais de garder l'abnégation, de venir travailler tous les matins et de pas se laisser abattre par ça. Et c'est vrai que ce qui fait que finalement j'ai arrêté d'en parler avec les élèves, c'est que eux-mêmes voient ça comme un quotidien, une fatalité, quelque chose d'ordinaire. Il est arrivé qu'il y ait une cellule psychologique au collège pour d'autres événements et tous les enfants, même des enfants de sixième, ont raconté avoir vu des agressions très violentes, des meurtres depuis leurs fenêtres, des gens poignardés, des gens tués à l'arme à feu. Et c'est vrai que moi, de mon côté, avec ma petite vie, ça me paraît délirant qu'un enfant grandisse avec ce type de quotidien à 3 km de chez moi, finalement. Au mois de mai de cette année, il y a eu un événement, quelque chose qui ne s'était jamais produit, du moins moi, tant que pendant ces 9 ans où j'avais été enseignant là-bas. C'est-à-dire qu'à la sortie des cours, vers 5h30, quelque chose comme ça, un élève du collège, accompagné de 2 autres élèves du collège, est allé devant le centre social qui est devant l'établissement, tirer sur un autre élève. Donc évidemment, ça, c'est terrible comme événement, parce que au-delà du fait que les enfants étaient très jeunes, hein, entre 14 et 15 ans, ça concernait des enfants de notre collège. Et puis des enfants qui faisaient tous partie de l'établissement, quoi. D'autant plus que personne n'a parlé. Personne n'a voulu dire ce qu'il avait vu, en ayant peur évidemment des représailles, et que le lendemain, à l'école, tout le monde savait qui avait tiré, sur qui, et ça crée effectivement un climat de suspicion, un climat extrêmement pesant. Et le lendemain, je me souviens, en classe, 2 enfants ont complètement craqué, ont fondu en larmes, en disant que c'était trop dur, que ça ne s'arrêterait jamais. Ensemble avec les élèves, on a commencé, c'est vrai, à s'interroger, quoi, sur pourquoi le lendemain, quand ils sont venus en classe à 8h, ils étaient seuls. Ils étaient seuls, il y avait simplement les surveillants devant le portail et puis pas la police qui était là pour, par exemple, les encadrer, leur dire finalement que tout allait bien. Ceux qui avaient tiré ne sont pas revenus. Ils ne sont pas revenus en classe. Tout le monde savait qui c'était. Et moi-même, j'ai su très rapidement qui c'était, car on me l'a dit. Seulement, c'était toujours des témoignages indirects. Et l'élève qui avait tiré se promenait, enfin, faisait des tours de l'établissement en scooter les jours suivants avec un masque de scream sur la tête. Et donc, on a vraiment l'impression d'être dans un film, quoi. Ça paraît délirant. C'était peut-être une façon d'intimider les autres. C'était aussi peut-être la manifestation, tout simplement, de l'évidence de sa toute-puissance, quoi. La peur de mourir, la peur de faire face aux représailles pour soi, pour toute sa famille, la peur de ne pas pouvoir rentrer chez soi ou aller faire ses courses tranquillement, écrase complètement tout le monde dans ce quartier. Et donc, ces jeunes-là qui participent à ce genre de forfait, ils sont complètement libres de tirer sur quelqu'un aux vues de tout le monde, sans qu'il se passe rien ensuite. Donc finalement, les auteurs des tirs n'ont pas été arrêtés, que je sache. Cette histoire finalement a été un règlement de compte, et comme tout règlement de compte, il y a eu une suite. C'est-à-dire que pendant l'été, je crois savoir que le frère de celui qui a tiré a été assassiné, que le frère d'un autre gamin qui avait participé à ça a été assassiné aussi. Je sais qu'un des élèves que je connaissais bien, qui avait participé, qui faisait partie du groupe dans lequel il y avait le tireur, a été envoyé au loin par sa famille pour être protégé, car il sortait plus de chez lui. Il savait très bien que s'il sortait, il risquait de mourir, et il avait 14 ans. Mais je me dis vraiment que si j'avais vu, je ne sais pas si j'aurais parlé. Parce que les risques, hein, sont bien réels, quoi. Et il aurait très bien pu m'arriver quelque chose si j'avais témoigné, je pense. Donc je pense que j'aurais gardé pour moi. Ouais. Finalement, c'est que l'illustration éclatante de la loi du silence. Donc Cette situation d'omerta, ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai décidé de quitter l'établissement. Je me suis dit à ce moment-là que finalement j'avais fait mon temps là-bas, que je ne me sentais plus d'affronter psychologiquement tout ça, même si cet événement en particulier m'a donné envie de rassembler le maximum de monde possible pour le dénoncer. Alors si on ne peut pas parler, si on ne peut pas témoigner, il faut au moins crier sa révolte contre cet état de choses, quoi. Hein, je me souviens d'un... On était dans la salle du prof d'art plastique pour dessiner des banderoles, etc. Et puis on cherchait des slogans, puis j'ai sorti « l'école n'arrête pas les balles », c'est ça. Finalement, lassé de ne pas pouvoir arrêter les balles, j'ai fini par partir, quoi. C'est un peu... le résumé de ma réflexion à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en partant, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à y retourner, j'ai beaucoup de mal à rester en contact avec les anciens élèves, parce que j'ai un peu l'impression de les avoir abandonnés, vous voyez. Ça, c'est dur à vivre, ça. D'y repenser, c'est dur à vivre.
Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, le collège n'arrête plus les balles. Un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Cécile Lafont. Merci à Nelly et à Nicolas. Sabine Zovigian, c'est la stagiaire du moment. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production de toujours. Des réactions, des partages, des commentaires, ce que vous voulez nous dire ou savoir, direction les réseaux sociaux. Nous avons bien évidemment une page Facebook et un compte Twitter qui vous attendent avec impatience.
Sorrow's my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my hat for heart alone. On the water, cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't want